One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, bonjour amis auditeurs et bonjour amis animateurs.
Bonjour.
Salut Ariane, salut Ghislain, comment allez-vous?
On t'a le bien.
T'as le bien?
On t'a le bien.
Bon, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012.
Eh oui, meilleurs vœux aussi Philippe.
Bon, une année qui promet de ne pas être de tout repos, qu'est-ce que t'en penses Ariane?
J'en pense qu'on s'est bien préparé pour en parler ce mois-ci.
On s'est bien préparé.
Ouais.
Ouais, parce que ce mois-ci, on a décidé de commencer l'année sur les chapeaux de roue en se posant une grave question. Est-ce que 2012 sera une année révolutionnaire ou est-ce que 2012 ne doit pas nécessairement être une année révolutionnaire? Alors, on va essayer de répondre à la question en 4 épisodes et on va commencer par parler de choses qui fâchent. En essayant d'être
la couleur de ton t-shirt.
Comment ça, la couleur de mon t-shirt? Tu n'aimes pas le rouge? Et donc, oui, on va parler tout simplement de la crise financière en essayant d'en parler comme on n'en parle pas dans la plupart des médias, parce que c'est sans révéler le contenu de l'émission, c'est quand même un vaste délire ce qu'on nous raconte là-dessus. Non, vous trouvez pas?
Si, bien sûr. Et de toute façon, nous, on n'est pas économistes, on n'est pas affiliés aux banques. Donc, en fait, on ne peut pas en parler comme les gens qui en parlent dans les médias.
Voilà. Donc, on va essayer d'en parler plus librement et vous donner des clés pour aller chercher de véritables infos.
Ouais!
T'es d'accord, Aria?
Oui, non, mais j'attends le premier son, je sens que je vais...
Alors, lance-le le premier son, par exemple, puisque c'est toi qui l'as préparé. Non, c'est toi, Ghislain,
non,
qui l'as préparé.
Non, c'est moi. Rends-moi mon son grolandais, s'il te plaît. Alors, ceci est un son grolandais.
Donc, on a décidé de commencer par un truc totalement délirant, parce qu'on trouvait que ça introduisait assez bien, finalement.
Je trouve pas ça très délirant, moi. Hein.
Tu trouves pas ça très délirant? Bon, on l'écoute,
on en reparle
ouais. Après. Donc, la crise selon Groland.
Au départ, il y a ces fameux subprimes, des emprunts accordés aux petits revenus sans qu'on leur dise que le taux était variable. Ces subprimes ont été convertis en titres douteux, qu'on appelle aussi les obligations pourries. En spéculant sur ces obligations pourries, les banques se sont retrouvées à la tête de sommes fictives appelées actifs toxiques. Avec ces actifs toxiques, les banques avaient donc des capitaux artificiellement gonflés, les chiffres pipeaux. Quand ils ont vu ces chiffres pipeaux, les acteurs économiques, appelés aussi les têtes de cons, ont réalisé la fragilité du secteur bancaire, ce qu'on appelle le chier dans l'orbène. Le chier dans l'orbène a paniqué les têtes de cons qui ont essayé de revendre le plus vite possible ces titres ou refiler cette merde. Les bourses, aussi appelées ramassées de sang-couilles, dégringolent. Les têtes de cons chient dans l'orbène, plus personne n'arrive à refiler sa merde, on décide alors d'en appeler au gouvernement. Ce qu'on appelle aussi le « on a tout claqué le pognon, faut nous en redonner ». Le gouvernement américain injecte 700 milliards de dollars qu'il emprunte à la Chine et aux Émirats arabes. Ce qu'on appelle aussi le « les bridés sont bien obligés de nous filer la thune parce que si on se pète la gueule, ils pourront plus nous fourguer leurs produits de merde ». Pareil pour les enturbanés, s'ils veulent continuer à nous vendre leur pétrole à la con, faut qu'on puisse encore acheter des bagnoles. Les bridés et les enturbanés filent la thune. Les têtes de con arrêtent de chier dans leur benne et les ramassis de sang-couilles ont le cul propre parce qu'il a été bien léché. Pendant ce temps-là, les boîtes se pètent la gueule, les gens n'achètent plus rien parce qu'ils ne peuvent plus ou parce qu'ils ne pourront plus, et ils se font virer ou ils vont se faire virer. Un bon gros bordel qui va tous nous foutre à la rue, à poil, ce qu'on appelle aussi une crise financière.
Ça fait beaucoup. Moi, j'attends vite qu'on se retrouve tous à poil dans la rue.
Au printemps, s'il vous plaît, pas avant.
Ouais, parce qu'on va avoir un peu froid avant, voilà. Mais ça risque d'arriver plus vite que prévu. Hein.
Bah, puis disons, ça va, il fait pas très froid.
Ouais, pour le moment, non, mais on sait jamais. Hein. Si ça arrive avant fin janvier, on va être mal.
Non, mais l'hiver pourrait arriver en mars, hein, on sait pas. Hein.
Oui, c'est ou vrai. En juillet, comme l'an passé.
Non, l'automne, c'était l'automne en juillet.
Alors, bon, bah en fait, oui, c'est pas si délirant que ça. Hein. C'est une façon de voir la crise qui est bon, un brin cynique, mais finalement assez juste. Parce que c'est vrai qu'on nous prend pour des cons quand même. Non, vous n'avez pas cette impression-là ?
Je croyais que l'année dernière, on avait travaillé sur la récupération du mot con.
C'est vrai.
Alors, Groland, ils font ce qu'ils veulent, mais dans ce studio, s'il vous plaît, con, c'est bon.
On nous prend pour quoi, alors, Ariane, explique. Le terme approprié, ce serait quoi ?
Bah, en fait, je trouve qu'on ne nous prend pas, quoi. On est dans une situation où les 99%, ils sont considérés comme quantité négligeable. On ne nous prend pas. On nous raconte des énormités et ça passe. Mmh. Donc on n'est pas considéré, on nous prend pas pour moi. C'est voilà, de toute façon, on a rien à foutre de notre gueule quoi.
Alors pourtant, il existe faut aller chercher de véritables informations et elles existent ailleurs que dans les médias. Pour préparer cette émission, oui, Ghislain ?
Oui, ben non, mais c'était pour rebondir un peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que début janvier, il y a eu des émissions de Mermet, ouais, sur justement les économistes qu'on voit à la télé qui nous expliquent les crises financières, qui sont toujours les mêmes,
ouais,
qui sont des experts, voilà, qui viennent nous expliquer, qui viennent nous donner la bonne parole, qui se trompent la plupart du temps, et en fait, qui sont tous affiliés aux banques et au système financier. C'est-à-dire, ce sont tous des gens qui sont employés par le système financier. Et en fait, la question que se posaient Mermet et ses intervenants, c'était comment est-ce qu'on peut dire que les gens des laboratoires pharmaceutiques n'ont pas le droit d'être dans les organes qui contrôlent les médicaments et la politique de santé en France, et tolérer que ce soit des employés des banques, des gens qui sont financés par les banques et le système financier, qui viennent nous expliquer la crise, l'économie et tout ça. Et donc, en fait, nous endoctriner.
Mmh. Alors, y a...
Endocriner pour les trucs pharmaceutiques, t'es trop fort.
Trop fort. Il y a un film qui est sorti sur les écrans de cinéma il y a à peu près un an et qui ressort en DVD actuellement, qu'il faut absolument voir à tout prix parce qu'il démontre très très bien ça. C'est un film sur la crise des subprimes en 2008. Alors la crise dans laquelle on est aujourd'hui, en fait, c'est simplement la suite de ça, puisque rien n'a été résolu. Hein. Et c'est pas avec les mesures qui sont prises actuellement, notamment au niveau européen, que ça va changer les choses. Donc ce film, ça s'appelle Inside Job. Donc je l'ai revu pour préparer cette émission, et ce que tu évoquais, ça, il le démontre très bien. Et ça prend naissance, en fait, dans les années 80, avec l'administration Reagan, où à un moment, tout le système financier a été refondu suite à une crise, une première crise financière dont on a un peu oublié.
Ah oui, c'est là qu'ils ont séparé les deux branches bancaires, qu'il y avait d'un côté les banques d'investissement, et
alors,
c'est ce moment-là.
Ils ne les ont pas vraiment séparés, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a eu un certain nombre de faillites des caisses d'épargne américaines, donc ils se sont dit faut absolument qu'on refonde complètement le système financier. Et à ce moment-là, il y a eu une réunion qui a fait que... c'est à ce moment-là qu'a été mis en place le système de titrisation qui est vraiment en cause aujourd'hui. Et donc, il y a une nouvelle organisation du système financier qui s'est mise en place avec une concentration des pouvoirs phénoménale. C'est-à-dire que, en gros, le documentaire l'explique très bien. On a, donc en 2001, 5 banques, on peut les nommer, hein, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch et Bear Stearns, 2 conglomérats financiers, Citigroup, JP Morgan, 3 sociétés d'assurance, AIG, MBIA, Ambac, et 3 agences de notation, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Et tous se sont liés pour en fait mettre en place un système de titrisation qui aujourd'hui fait qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui.
C'est quoi, titrisation ?
Titrisation, alors, c'est ce qui permet, en fait, aux banques... Parce que le système capitaliste, aujourd'hui, repose non pas sur les revenus, mais sur la dette. Et donc, ce système permet, en fait, à ces structures-là de distribuer un maximum de prêts sans avoir véritablement de soucis sur la qualité de ces prêts, puisque ces prêts en fait sont agglomérés et revendus derrière sous forme de titres, ces systèmes des subprimes. Donc du coup, en fait, c'est comme ça qu'on en arrive au bout de 10 ans à des prêts qui sont d'une toxicité phénoménale, puisque on prête sans mesurer véritablement le risque, puisque ces sociétés qui font les prêts,
ouais, et puis
derrière,
surtout, le fait de prêter, ça devient un support d'investissement en fait, et donc tu paries sur un remboursement. Et ce qui est favorable à celui qui investit, c'est que les intérêts montent de toute façon.
Oui, alors ça, c'est effectivement. Il faut voir le film parce qu'il explique très 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 clairement tout ça. Mais en fait, il y a au travers de ce système-là tout un tas d'effets pervers qui font que aujourd'hui, on est dans une situation la fois par ce phénomène de concentration et de distribution de prêts sans mesure véritable du risque qui est pris en faisant ces prêts, qui conduit en fait à un système qui court à sa perte.
Ouais,
quoi.
Mais en même temps, tu vois, pour moi, quand tu présentes la problématique de la sécurité du remboursement,
ouais.
Pour moi, ton regard, il est encore empreint de cette logique dominante qu'on veut nous vendre. Puisque quand tu regardes toutes les histoires de, par exemple, de microcrédit, donc c'est prêté aux gens les plus pauvres, c'est cette population-là qui a les meilleurs taux de remboursement.
Oui.
Donc la façon d'évaluer le risque sur certains prêts, je pense qu'elle est de toute façon, enfin, c'est comme le PIB, ça recouvre pas une réalité suffisamment complexe. Pour moi, ce qui me dérange vraiment, c'est cette mécanique de levier sur les intérêts, ce qui aboutit à des situations mathématiques aberrantes et impossibles. J'ai entendu sur Mermet, mais plutôt que ce que tu dis, au mois de décembre, j'ai entendu la mise en balance de ce qui est prêté, de tous les actifs sur lesquels les agences de notation et tout ça peuvent émettre des avis, etc. Et c'est évident qu'un pays dont les capacités de remboursement sont mises en doute par ces grandes enseignes-là, c'est évident qu'ils ne peuvent pas répondre à cette pression-là, parce que les actifs qui leur seraient demandés sont... j'ai oublié le chiffre tellement c'était aberrant,
non, mais
les sommes qui sont censées circuler sur le plan financier sont... je ne me rappelle plus du facteur parce que c'est honteux, mais sont supérieures réellement à ce qui est réellement échangé matériellement, si tu veux, sur un plan monétaire, etc.
Oui, non, mais en fait...
Mais de très très loin, quoi, ouais. C'est hallucinant.
Mais, alors, parce que c'est un système qui repose sur la dette, mais c'est compliqué de l'expliquer comme ça en si peu de temps. Mais il y a vraiment quand même, malgré tout, une notion de risque qui est... Alors, comment te dire, on va évacuer l'histoire du microcrédit, parce que c'est pas effectivement dans ce système-là qu'on parle de microcrédit. Là, on parle d'un système qui est un système ultra-libéral, un système complètement déréglementé. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on nous parle des marchés, c'est une notion complètement abstraite qui ne veut rien dire. Et aujourd'hui, les économistes qu'il faut écouter, c'est ceux qui dénoncent ça. C'est-à-dire que les marchés, c'est quoi ? Les marchés, c'est quelque chose de complètement... c'est une abstraction. Alors, nous, on fait partie du marché quelque part. On l'alimente tous. Il y a différents acteurs sur le marché. Il y a les banques, il y a les agences de notation, il y a tous les acteurs qui interviennent à un moment ou à un autre dans la chaîne de la finance. Donc, on en fait tous partie. Mais c'est une abstraction en même temps. Et pour bien analyser ce qui se passe, il faut se mettre en dehors de ça. Et ça, il y a quelques économistes qui le font, des gens comme effectivement l'auteur de ce documentaire, Charles Fergusson. Il y a un mec aussi en ce moment qu'on voit un petit peu dans les médias, pas forcément dans les médias d'information, mais l'émission de Frédéric Taddeï, je ne me souviens plus comment elle s'appelle cette émission, mais elle est assez passionnante. Et c'est un mec qui s'appelle Paul Jorion. Il est intervenu une ou deux fois ces derniers temps. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un anthropologue belge, mais ça a été un des rares à prédire la crise des subprimes. Et son analyse, elle est d'une pertinence assez incroyable.
Un des rares que t'as entendu, parce que moi, à ce moment-là, Pierre Larouturou, ça fait super
longtemps
mais
voilà,
que
mais
j'entends
il en fait, mais tout à fait, mais il en fait partie, mais c'est des gens... auxquels on
ils
peut
font pas partie de la
avoir
pensée
accès,
dominante,
mais
donc
ils
n'ont
pas
le plus gros
parleur, c'est
clair.
De la pensée dominante. Et c'est de ces gens-là dont il faut parler. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est que, alors, même sur des radios qu'on peut penser plus libres, comme France Inter ou
Ah non, mais moi j'ai compris ce qui s'est passé sur France Inter, c'est qu'ils ont balancé eux-mêmes, c'était dans... service public, il y avait, tu sais, une fois par semaine, tu as tous les chroniqueurs qui arrivent. Et les gens, ils disaient, ah, mais nous, on a eu besoin de se former pour pouvoir vous en parler. Mmh. Et là, je me suis dit, ah, mais qui est-ce que tu as appelé comme formateur? Mmh. Et voilà, tu te retrouves avec ceux qui sont le plus disponibles à ce moment-là, ceux qui sont le plus organisés, soit les dominants, quoi. Point.
Et puis, ce qu'évoquait Ghislain tout à l'heure, c'est-à-dire la collusion de la finance, du monde médiatique, du monde politique, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart, enfin, à 95%, on va dire, on a accès à des gens qui cautionnent un système qui court à sa perte.
Et c'est ceux qu'on retrouve non seulement dans les médias, mais aussi dans les institutions. Oui. Le Conseil économique et social, ce genre de choses-là. Et il y avait même, genre, j'ai oublié les noms, parce que je bossais en même temps, ils évoquaient un conseiller de Christine Lagarde, qui était à ce moment-là ministre de l'économie, qui était vraiment quelqu'un issu de ce milieu financier et financé par eux, donc qui était un peu, on va dire, celui qui décidait à la place d'eux. C'est-à-dire que s'il lui disait un truc, personne d'autre n'allait contre.
Exactement.
Ni le ministre, ni le président, ni personne d'autre.
C'est vrai aussi Alors, on a parlé de l'administration Reagan, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, que tout ça se met en place. Mais aujourd'hui, autour d'Obama, bien que... Une des mesures avant son élection qu'il a mis vachement en avant, c'était justement à nouveau réglementer le monde de la finance. Aujourd'hui, 3 ans après son élection, il s'est quasiment rien passé. Et pire que ça, dans son entourage, aujourd'hui, on retrouve des gens de la finance, de Wall Street.
Mais c'est eux qui sont perçus comme élite. C'est ce qu'on voit aussi au niveau des gouvernements européens.
Au niveau de l'Europe, regarde, le nouveau Premier ministre grec est issu de Goldman Sachs. Le mec de la BCE est issu de Goldman Sachs. Je ne sais plus trop quel autre.
Le nouveau Premier ministre italien.
Voilà, est issu de Goldman Sachs aussi. Enfin, tu vois, les marchés financiers ont réussi à imposer leurs dirigeants.
Alors même que c'est eux qui nous ont foutus dans la caca.
Et voilà, et ça fait 30 ans que ça dure, voire plus, et a priori, mauvaise nouvelle, on n'est pas prêt d'en sortir.
On n'est pas prêt d'en sortir. Il y avait aussi Montebourg aussi ce matin sur France Inter,
matin, quel jour?
Ah oui, c'est vrai, oh putain, ma blonde, je refais ma blonde. Bon, il y avait donc Montebourg un matin sur France Inter qui dénonçait, enfin qui parlait aussi de du fait, comment dire, il disait par exemple pour sauver les banques, on leur a fait des prêts à des taux absolument ridicules, du genre du 0,001%,
c'est pas du 0%, mais bon, en gros,
symboliquement, voilà.
Exactement.
Et il dit, et par contre, aux États, on leur prête à des taux qui sont complètement rédhibitoires.
7% et plus pour l'Italie.
Alors qu'aux banques, et c'était les banques centrales qui faisaient ça, fait.
C'est ce que dit l'article.
C'est-à-dire notre argent, en gros.
C'est ce que dit l'article.
Enfin, l'argent américain, parce que la BCE n'a pas le droit de le faire encore.
Donc, c'est ce qu'on peut lire dans l'article co-signé Rocard et Larouturou, paru dans Le Monde. Voilà.
De quel jour?
J'ai pas regardé le jour parce que je l'ai vu sur internet, donc c'est disponible sur lemonde.fr, il y a pas de souci.
On fait une petite pause musicale et puis on en revient pour en parler tout de suite après.
Spaces there filled with echo, one point belonging to each space. Did the lines ever intersect one another at a moment, time, or have always crushed, it happens all the time.
Quelque chose à dire, Gislain ?
Oui, Philippe, je n'aime pas ta chanson préférée de 2011.
Bon, c'est Nicolas Yard, Space is only noise if you can see.
Au cas où vous n'auriez pas compris.
Eh, c'est plus facile que Sexy Sushi.
C'est plus facile que Sexy Sushi, mais c'est moins sexy.
Ah, moi, je trouve pas. Hein. Alors, SLP, salut les PD. SLP, salut les PD. On parle de la crise financière en 2012 et on a un petit son à vous faire écouter.
Avec une voix vachement plus charmante, je veux dire, quand même.
Différente, tout aussi charmante, ouais. Je dirais. On l'écoute et on en reparle après.
La dette, la dette, la dette. La dette, c'est chouette. Enfin, ça dépend. Parfois, on a besoin d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies de chemin de fer, des stades, des piscines, des universités, des églises. Ah non, ça c'était avant. Des éoliennes, des maisons de retraite, des musées, des théâtres. Ça coûte des sous de construire tout ça. Alors on emprunte. Ça, c'est de la dette légitime. On remboursera avec nos impôts petit à petit. Cette dette légitime, c'est un tiers de la dette totale. Mais les deux tiers qui restent, c'est quoi? Eh bien voilà. Il y en a un à qui on a dit « Ah, vous, c'est pas la peine de payer trop d'impôts ». Celui-là, appelons-le le riche. On lui a baissé l'impôt sur les revenus du capital, on lui a baissé les impôts sur les sociétés, baissé les impôts sur les hauts revenus, baissé l'impôt sur la fortune. On lui a créé des niches fiscales, créé un bouclier fiscal. On l'a exonéré de cotisations sociales. Grâce à toutes ces mesures, on s'est dit que le riche allait faire bon usage de son argent et qu'il le réinvestirait pour créer plus de richesses. Eh ben non. Le riche veut être encore plus riche. Cet argent, au lieu de l'investir, il le met dans des paradis fiscaux. Et il le joue au casino, en bourse. Là, il mise sur des produits financiers complexes, très, très rapidement et très, très fortement rémunérateurs, mais également très, très risqués, qui pourraient produire la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Qui a produit la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Et c'est la crise, la récession. On crée moins de richesses et donc l'État, avec son petit taux d'imposition, n'arrive plus à rembourser sa dette. Il supprime des postes d'infirmières, de professeurs, de policiers, de juges, d'assistantes sociales, de curés, de gardiens de musée, de stadiers, de maîtres nageurs. Parce qu'il faut faire des économies. C'est l'austérité. L'État est rincé, mais la crise le pousse à dépenser plus. Dépenser plus en assurance chômage, dépenser plus en prime à la casse, dépenser plus en plan de relance. Et pour ça, l'État emprunte, emprunte, emprunte. Et la dette explose. Les voilà, les deux tiers de la dette. Ces deux tiers illégitimes. C'est la dette des riches, de leur crise et des cadeaux qu'on leur a faits. Mais écoutez la suite, c'est beau comme une crèche. Et pour financer la crise du riche, à qui on emprunte? Aux riches. On lui emprunte un argent qu'il aurait dû payer en impôts et qu'on devra lui rembourser avec des intérêts. Et ça, c'est le pompon, le bouquet, le comble, mais surtout injuste, pas chouette, mais alors pas chouette du tout. Alors stop, on réfléchit. Il faut un moratoire pour faire le ménage, mais un vrai ménage, dans tout ce bazar. On veut bien rembourser, mais ce qu'on doit, et pas plus, et certainement pas aux riches. Un moratoire pour décider démocratiquement ce qu'on fait de la dette. Pour reprendre en main notre avenir, pour refuser de se soumettre au pouvoir de la finance. Un audit pour se donner les moyens de contrôler nos choix collectifs. Alors, on arrête tout, on fait le tri, et c'est moins cher. Et c'est plus juste, et c'est plus chouette.
Alors c'était qui la voix, Ariane ?
C'était Clémentine Autain.
Gagné. Mais c'est qui, Clémentine Autain?
C'est la plus jolie figure du front de gauche.
Oui, c'est clair.
Oui, les plus jolies tenues aussi.
Et la plus jolie coupe.
De cheveux?
Et les plus jolis yeux.
Bon, c'est une vraie déclaration d'amour.
Non, c'est vrai, c'est une très jolie fille.
Ouais, ouais.
Par contre, je préfère la voix de ton monsieur.
Ah, tu vois?
Ouais.
Combien il reste, Tao? Non, pas
une minute.
Mais... Non, c'est pas. Alors, évidemment, on n'est pas allé au bout du sujet. Moi, je voudrais quand même citer un certain nombre de sources parce que, alors, les solutions qu'on nous propose, oubliez-les, mais allez plutôt fouiller ailleurs. Alors, il y a un petit bouquin qui est assez passionnant qui s'appelle Manifeste d'économistes atterrés qui est sorti en 2010. Dans lesquels ils font une analyse effectivement de la crise, dans lesquels ils mettent en évidence 10 fausses idées, 10 fausses évidences sur la crise et pourquoi la crise. Et non seulement il y a un diagnostic, mais en plus de ça, il y a des propositions. Et des propositions qui sont pour le moins pertinentes. Alors, de là à ce qu'elles soient mises en œuvre, on n'y est pas encore. Mais donc, c'est bien la preuve que malgré tout, des solutions existent.
Et il y a des choses qui sont mises en œuvre, hein, là, puisque ce qui est évoqué dans le petit son, la propagande du front de gauche, là, il y a des comités d'audit citoyens qui sont mis en place dans la plupart des départements, impulsés par attaque souvent. Donc ça, c'est en train, quoi.
Voilà. Alors ça, c'est au niveau microéconomique. Donc il faudrait à un moment que ça bascule à un niveau macro. Mais bon, ça prendra peut-être du temps, mais on y arrivera à un moment ou à un autre. En tous les cas, on peut l'espérer.
Ouais. Et puis il faut aller réécouter les mermaids du début de janvier. Là-bas, si j'y suis, c'est vachement bien. Il faut se méfier de la TVA sociale.
Voilà.
Oh là là. C'est euphémistique ce que tu viens de dire.
Et, ah, et Inside Job, Charles Ferguson.